moyens nécessaires pour y faire face, comment faire en sorte que on ne soit pas pris dans les marées des manifestants lorsqu'on a été chez soi. On va en parler tout à l'heure. C'est bien sûr à la suite de manifestations qui sont, si vous voulez, réalisées à Kinshasa il y a quelques jours. Comment éviter d'être pris dans le flot des manifestants à suivre aujourd'hui. Et puis, violence sexuelle faite à la femme, c'est devenu pratiquement une arme de guerre contre la gente féminine. Plusieurs rapports d'agences humanitaires et d'ONG de défense des droits de l'homme, et spécifiquement des ONG qui défendent les droits des femmes, ont confirmé tout ça. Plusieurs cas ont été répertoriés. Vous êtes victime d'une violence, que pouvez-vous faire directement? Un proche de vous en a été victime, que pouvez-vous lui conseiller à suivre? Voilà pour commencer ces sujets 2 pour Okapi Action aujourd'hui. Nous sommes heureux que vous soyez nombreux à l'écoute de ce magazine. Participez, posez vos questions, faites partager votre expérience ou vos témoignages avec tous ceux qui nous suivent au Congo et dans le monde entier. Appelez au 081 890 68 90. Dulité Chama fait la régie comme d'habitude. Sia Light à la mise en onde. Au micro, Walter Molondi.
Okapi, le Congo à l'écoute.
Bien-aimé Sombi, ça fait plaisir de réentendre cette voix. Merci d'être branché là où t'es, hein, en Afrique, quelque part à Abidjan. Tu peux nous écouter, aussi bien tous les autres Congolais qui sont à l'écoute. Abidjan, oui, dans notre pays où on s'est vu des guerres, en tout cas, le tableau est presque le même. Les violences sexuelles faites contre la femme sont systématiques pendant les conflits armés. La République démocratique du Congo n'en a pas été épargnée. Les violences sexuelles ont été utilisées comme armes de guerre. Plusieurs enquêtes des agences humanitaires, des ONG de défense des droits de l'homme, des ONG spécifiques de défense des droits des femmes ont rapporté et tous ces actes de violence. Bukavu, Goma, Bunia, Butembo, pour ne citer que ça, voir Kinshasa sont autant de villes où les femmes et les jeunes filles subissent le viol au quotidien, une des formes de violence sexuelle. Preuve à l'appui, pour ne citer qu'un exemple, à Bukavu, dans les pavillons modernes de l'hôpital de Panzi, une cinquantaine de femmes sont soignées pour des raisons des violences sexuelles. Le centre en a accueilli 1 000 000 depuis mars de l'année 2004. On a répertorié 650 maladies sexuellement transmissibles chez les victimes, dont plusieurs cas de sida. Quand l'équipe médicale a fini, si vous voulez, la prise en charge médicale de façon globale, en tout cas, elle se dirige après vers d'autres centres qui s'occupent de l'aide psychosociale des ces femmes. Pour avoir un peu plus d'informations par rapport au sujet, nous recevons une dame. C'est une coïncidence tout simplement. Nicole Ndaka, bonjour.
Bonjour Walter Mbairindi.
Alors, ce n'est pas la première fois que nous évoquons cette question des violences faites à la femme dans ce magazine Okapi Action et particulièrement avec vous, quand bien même ce n'est pas une coïncidence. Vous avez fait une nouvelle enquête à ce sujet. Qu'est-ce que vous avez constaté?
Il faut vous dire tout de suite, Walter, que la situation d'aujourd'hui et d'hier est presque pareille. À la seule différence près qu'hier, le viol était plus lié au problème de conflit armé. Aujourd'hui, ce n'est plus tellement le cas, puisque la situation ici au pays est plus ou moins calme. Les cas de viol sont donc moins signalés dans le pays, surtout à l'Est, qui était devenu pratiquement la mère patrie du viol. Mais cela ne veut pas dire, Walter, qu'aujourd'hui, on ne viole plus les femmes en République démocratique du Congo.
Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a très peu de victimes qui ont le courage de témoigner, que donc il est difficile d'avoir les statistiques. On évoquera cette question tout à l'heure avec nos invités, mais par rapport aux chiffres disponibles, à la banque des données disponible, qu'est-ce qu'on peut en retenir?
Vous l'avez dit, il est vraiment difficile d'avoir des statistiques, en tout cas des statistiques fiables sont difficiles. Les organisations des droits de l'homme que nous avons pu joindre nous ont dit qu'il est vraiment impossible de déclarer en fait ces statistiques aujourd'hui. On peut par contre observer dans certains hôpitaux comme à Bukavu, à Mimira, Panzi, où on reçoit souvent des cas de viol. Mais que fait-on alors de toutes celles qui ont peur de se déclarer par gêne? J'aimerais que vous suivez cet entretien que nous avons eu avec Astrid Mujinga, qui est notre consoeur. Elle s'était entretenu dernièrement avec le docteur Mupege, qui est en fait le médecin directeur de l'hôpital Memera Panzi.
Alors, les quelques cas des femmes qui ont accepté, disons, de dévoiler qu'elles ont été violées, alors ces cas sont pris en charge à l'hôpital de Lemera à Panzi. Alors, ces femmes sont prises en charge là-bas, on les soigne, et puis il y a aussi une prise en charge psychologique, c'est-à-dire on essaye en fait de redonner, disons, le goût de la vie à ces femmes-là, de leur montrer que elles ont été violées, mais que ce n'est pas la fin du monde, qu'elles ont encore un rôle à jouer dans cette société.
Oui, une autre précision, oui. Astrid Mujinga, est-ce que à l'hôpital de Memera, pour les cas de viol, le service est gratuit?
Oui, le service est gratuit justement. Alors maintenant, en ce qui concerne l'hôpital de Panzi, on ne peut pas dire que chaque jour ici on reçoit des cas. Parce que c'est un peu délicat pour les femmes en fait de se déclarer comme ça, que bon voilà, elles viennent d'être violées, elles veulent être prises en charge. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'ONG ici, surtout d'ONG féminines, et il y a aussi ce qu'on appelle les CADEAL. Bon, j'ai un peu oublié ce que signifie ces sigles en fait. Alors, leur travail, c'est de pouvoir justement aller dans les milieux où les femmes sont les plus violées, les sensibiliser et leur demander de déclarer en fait leur cas.
D'accord.
Parce qu'on leur dit que si elles déclarent par exemple leur cas en dehors les 72 heures après le viol, on peut les soigner même s'il y a un cas de sida et ça peut se soigner.
Astrid Mujinga, tu as rencontré des médecins qui s'occupent de ces femmes victimes des violences sexuelles. Il faut dire aussi à passant qu'au point de vue juridique, les violences sexuelles ne sont pas encore établies comme infraction à part entière pour permettre à ces victimes de pouvoir porter plainte. Mais avant d'arriver peut-être à d'autres questions aussi spécifiques, on a évoqué le cas de plusieurs ONG, organisations non gouvernementales qui sont sur terrain pour assister toutes les victimes des viols et violences sexuelles, et pourquoi pas aussi les personnels soignants qui ont l'habitude de traiter les cas de viol. Que font exactement ces deux structures, ONG d'une part et personnel soignant, Nicole?
Bon, ONG d'une part, d'abord, les ONG ne peuvent se limiter qu'à l'encadrement psychosocial, mais d'autres vont jusqu'à l'assistance médicale. Malheureusement, elles ne sont pas nombreuses, hein, Walter. Madame Issimoa, qui est responsable d'une ONG à Bukavu, nous a parlé de ce qu'elle fait dans le cadre de cette organisation. Je vous laisse suivre l'entretien que nous avons eu avec elle.
Oui, parce que vous pouvez voir que certaines femmes elles souffrent de fistules, c'est-à-dire elles ont connu des déchirures, sur leurs organes génitaux. Alors les matières fécales et les urines, ça se mélange. Alors dans les différentes opérations chirurgicales, les différentes intervalles chirurgicales qu'elles connaissent, des fois elles on fait en sorte qu'elles fassent leurs besoins à travers des pochettes. On voit qu'elles ont des jambes de pochettes à travers les hanches ici, et que ça, des fois ça pue et ça dégage, parce qu'elles elles sont vraiment détruites.
Mais vous, à votre niveau, quelle assistance donnez-vous à toutes ces femmes?
Bon, la première assistance qu'on apporte à sa consoeur quand elle est devant ce problème, c'est d'abord l'écouter, compatir, lui remonter le moral. C'est d'abord ça. Et petit à petit, nous avons donné ce que nous pouvions avoir, collecté quelques habits entre nous pour les vêtir, parce que les viols se passaient tout le temps avec les pillages. Alors ça fait qu'elles étaient démunies, que des fois elles n'étaient pas habillées. Et aussi après, on a commencé à lui apporter quelques assistances médicales, faire des orientations médicales là où nous savons qu'on pouvait lui offrir quelques soins médicaux.
Madame Bichimoa, qui est assez engagée dans l'assistance aux femmes victimes de violences sexuelles, elle est responsable d'une ONG opérationnelle dans le Sud Kivu et particulièrement à Bukavu. Nicole, vous nous avez dit tout à l'heure que les violences sexuelles se perpètrent presque partout à travers la République démocratique du Congo. Dans vos propos, vous nous avez aussi signalé que la ville de Kinshasa connaît aussi malheureusement ces chiffres des malheurs en ce qui concerne les violences sexuelles. Et pourtant ici, disons, il n'y a pas eu forcément de conflit armé à Kinshasa, comme on peut le dire.
C'est vrai, mais Walter, il est aussi vrai que les violences sexuelles, ce n'est pas seulement le viol, c'est aussi des attouchements, c'est aussi dans le comportement, je dirais, sexuel des gens sur des personnes non consentantes. Et à Kinshasa, ce genre de violence sexuelle est fréquent. De nombreuses familles vivent, il faut le dire, Walter, dans une promiscuité comme c'est pas permis. Dieu seul sait ce qui se passe, mais bon, il faut dire aussi que les gens ici sont très discrets. On préfère taire ce qui est considéré comme une honte que de dévoiler cela haut et fort.
Pour ne pas jeter le propre sur la famille, ne pas être pointé du doigt dans les rues, voyez-la, bon, monimtoana.
Tout à fait. Et puis bon, il faut dire qu'ici aussi on est très tabou. C'est ça le problème. Mm-hmm. Alors, Madame Lisette Banza, que nous avons rencontrée, elle est responsable d'une ONG qui s'appelle Dignité des Sans-Voix, a reconnu qu'il y a beaucoup à faire encore dans ce domaine. Et pour commencer, les femmes, j'insiste, doivent apprendre à dénoncer les auteurs de ces crimes ignobles.
Ce qui est là, je vous dis clairement, les femmes ne veulent pas, les femmes qui ont été violées ne veulent pas s'exprimer. Tu vois, elles ont peur peut-être de la honte de la communauté, comme on sait que si cette femme dit que non, elle dit qu'elle elle s'exprime, elle dit que non, voilà, j'ai été violée. Il y a d'autres qui vont peut-être interpeller, ils vont colporter, ils vont dire elle aura une mauvaise réputation. Alors elles craignent. Nous allons vers ces femmes-là, nous parlons avec ces femmes et nous dénonçons surtout les faits.
Auprès de qui ?
Nous dénonçons, on publie des rapports et puis on parle surtout au gouvernement, nous parlons à tous ceux qui opèrent, qui font, surtout les militaires.
Mais est-ce que jusque-là, ça donne de bons résultats?
Bon, jusque-là, je peux dire que au moins l'écho est là, parce que on n'a pas vraiment le bon résultat sur le terrain, mais au moins, nous savons qu'il y a une amélioration. Parce qu'avant, même quand il y avait des émeutes, peut-être à l'université, quand les policiers venaient réintervenir, c'était plus les violences sexuelles. Ils étaient là tellement, ils étaient plus attirés par la femme pour violer la femme. Et maintenant, nous trouvons que ça diminue un peu. Là, je peux dire que ce sont de bons résultats. Et nous continuons, parce que nous voulons que cela s'arrête. Nous continuons à parler, à faire des lobbying. Nous continuons afin que la mentalité des gens s'arrête, surtout les hommes en armes, qu'ils puissent arrêter de violer les femmes.
Donc voilà, on vient d'entendre ces plans de leitmotiv des combats pour amener les femmes à prendre conscience de ça et adopter une attitude positive, si vous voulez, par rapport aux violences faites à la femme. Première étape, j'ai noté, il faut se présenter d'abord devant un personnel médical pour une consultation en vue d'éviter des infections ou des grossesses indésirables. Ensuite, et c'est là que le combat commence, dénoncer ces actes ignobles pour pouvoir espérer, en troisième lieu évidemment, d'obtenir réparation judiciaire. Mais la première chose la plus importante, c'est de se présenter auprès d'un personnel médical pour faire une évaluation sur les différentes, que vous voulez, souffrances.
Et j'insiste, Walter, à Bukavu, à l'hôpital Memera, à Panzi, c'est gratuit, la prise en charge. Donc on ne paye absolument rien.
Il faut vous présenter pour être consulté gratuitement lorsqu'on est dans ce cas-là. Il vaut mieux le faire le plus tôt possible pour éviter qu'il y ait des complications un peu plus tard. Bon, on aura un peu plus de détails avec nos invités en deuxième partie de ce sujet. Nicole, on vous remercie beaucoup. Surtout pour cet engagement vis-à-vis des victimes qui sont nombreuses à ne pas franchir les murs du silence.
C'est plutôt moi qui vous remercie, Walter Bayrindi.
Merci, on se retrouve. 081-890-6890, c'est notre numéro d'accès. Si vous voulez réagir, participer à ce magazine Okapi Action, le premier sujet que nous vous proposons aujourd'hui, c'est celui relatif aux violences sexuelles faite à la femme. Pour commenter ce sujet, nous recevons en studio Madame Régine Zaté. Bonjour Madame.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Vous, moi je suis Walter.
Ah, bonjour Walter.
Bon, alors, comme ça les présentations sont faites. Vous êtes en charge du département femmes et enfants au sein de l'Observatoire congolais des droits humains, OCDH. Lorsqu'on évoque la question des violences sexuelles faites à la femme au niveau de votre département, quel constat faites-vous par rapport à la situation au Congo-Kinshasa?
Voilà, monsieur, merci beaucoup, monsieur le journaliste. La situation des violences sexuelles est réelle. Des problèmes délicats à traiter. Voilà, depuis que nous sommes lancés contre les actes de violences sexuelles, nous avons constaté qu'en RDC, précisément à Kinshasa, les femmes victimes de violences sexuelles n'arrivent pas souvent à dénoncer leur bro, ce qui nous empêche de travailler correctement. Quelquefois, il nous arrive aussi d'approcher les victimes une fois qu'on est au courant de la situation, mais les victimes souvent ne nous facilitent pas toujours la tâche. À moins que, peut-être à l'extérieur du pays, à l'intérieur du pays, là où il y a des cas de violations flagrantes des droits de la femme, précisément sur la question de violences sexuelles, là au moins on dénonce parce que les cas est flagrant, tout le monde les suit de près, les cas est connu de tout le monde. Mais à Kinshasa, lors des pillages par exemple, on constate qu'après les pillages, les militaires quand ils entrent à la maison, après les pillages, ils s'adonnent à violer les femmes. On aborde les victimes se taisent. Ils ne veulent pas qu'on puisse porter leurs problèmes à la place publique.
Il y a ce problème de chercher à, si vous voulez, à sauvegarder une certaine intimité. On a honte d'être pointé du doigt pour que tout le monde dans la rue commence à dire, mais regardez cette femme-là, on l'avait violée. C'est ça parfois qui est un handicap. Mais vous qui êtes dans ces types d'ONG, qu'est-ce que vous faites effectivement pour pousser ces femmes à briser le mur du silence?
Voilà, l'OCDH, dans son département Femmes et Enfants, organise des séminaires de sensibilisation, juste pour faire comprendre à la femme qu'une femme violée n'est pas moins femme que les autres femmes. Venez dénoncer les cas de violence sexuelle. Ça nous permet de combattre, parce que quelque part, les gens qui violent, les bourreaux là, bénéficient d'une certaine impunité. Ils savent qu'ils resteront impunis tant que les victimes n'arriveront pas à dénoncer. Alors, dans ce cas, les bourreaux-là ne sont pas toujours à leur première tentative. Ils continueront. Et notre système judiciaire aussi est faible à ce sujet. On parle toujours des viols et attentats lapideurs, alors qu'il y a beaucoup les violences sexuelles qu'on prend, et les viols et les cas d'attentats lapideurs. Les quelques cas que nous recevons au sein de l'OCDH, on accorde une assistance psychomédicale, on se limite là. Mais on a aussi une assistance juridique et judiciaire, parce qu'au sein de l'OCDH, nous avons pas moins de 12 avocats. Mais seulement que les femmes, en général, ou les filles, ne veulent pas qu'on puisse rester ou traîner
les victimes qui viennent chez vous refusent que vous puissiez saisir la justice.
La justice, voilà. C'est ça le blocage. Mais tout récemment ici, on est saisi d'un cas d'une femme qui a été violée au CPRK, imaginez-vous, par les militaires et les policiers qui ont été commis à la garde.
Disons pour nos auditeurs que le CPRK, c'est le centre des pénitentiaires et des rééducations de Kinshasa, l'ancienne prison de Makala.
L'ancienne prison de Makala. Ouais. Parce que de temps en temps, nous descendons là-bas pour mener des enquêtes, surtout dans les pavillons des femmes. Et c'est là, entre dans le cadre de l'attribution de mon département. Voilà, bon, là, au moins, parce que ce sont des agents de l'État, on a essayé de faire quelque chose. On a saisi d'abord les ministères de la justice, les ministères de la justice, et puis on a réservé copie à l'Observatoire national des droits de l'homme, au ministère des droits humains, au commissariat des Nations Unies et puis à la MONUC. Voilà.
C'est depuis quand ou comment évolue ce dossier? Parce que ça peut être
un précédent erreur. C'est tout récent ce dossier. C'est depuis le 7 décembre de cette année.
De l'année passée.
Le
mois de janvier, il y a toujours.
Voilà.
Ça.
2004, depuis l'année passée, vers le mois de décembre. Le dossier est en train d'évoluer. pas censé dire que ces gens-là doivent au moins être punis, comme ça, ça va servir d'exemple à tout le monde. Mmh. Le cas de ces pères-cas, c'est un cas vraiment flagrant, parce qu'il y a des femmes qui sont violées réellement là-bas, mais les problèmes, si vous n'êtes pas saisis, les ONG ne sont pas saisis. Alors, les problèmes passent comme ça. Et heureusement pour nous, nous étions saisis de cette affaire, voilà que nous sommes en train de suivre. Il faut dire au sein de l'OCDH, nous accordons l'assistance psychomédicale, d'accord, parce que nous avons les centres d'assistance et de réhabilitation des victimes de torture en général et des victimes de violences sexuelles en particulier. Là, nous avons les centres pour objectif de sensibiliser les victimes, la population sur la question des tortures et des violences sexuelles. Et puis, le centre aussi a ses avocats. Donc, accorde une assistance juridique et judiciaire. Pardon, je parlais des centres. C'est les CARVIT en général, en question, à un centre médical. Là, nous accordons une assistance psychomédicale. Nous accordons une assistance juridique et judiciaire. Là, nous sommes un peu limités. Pour les cas de torture en général, bon, ça va. Là,
on sait très bien que l'OCDH a parmi ses grandes actions de prédilection depuis 2001. Je pense, la lutte, la prévention contre la torture. Nous en avions discuté lundi dernier avec Maître Dieudonné Dicou, qui était notre invité, qui était assis à votre place. On va revenir tout à l'heure pour rentrer en détail, parce que le cas que vous êtes en train de suivre actuellement de cette femme victime des violences sexuelles au niveau de l'ex-prison de Makala paraît être intéressant, parce que dès lors que mettez-vous à la place d'une femme qui a été violentée sexuellement et qui voit passer son bourreau libre, qu'est-ce qui se passe?
Oui, Walter, c'est vrai que ça va déranger. Mais que ces femmes-là puissent venir aussi nous aider. Nous ne pouvons pas nous saisir de l'affaire comme ça.
Vous voulez dire, aidez-nous à vous aider.
Oui, dénoncez les cas. D'abord. Nous sommes prêts. L'OCDH est prêt pour actionner, dénoncer, saisir la justice et soigner. Nous sommes disposés à le faire. C'est mal que les gens, je ne sais pas s'ils ne le savent pas, mais peut-être qu'ils le savent aussi, mais pas compte tenu de leur réputation. Il faut dire aussi que la communauté puisse aider aussi les victimes. Une femme violée aujourd'hui est devenue moins rejetée par la foi. Ouais. Notre culture, c'est ça. Elle est rejetée, elle est moins femme par rapport aux autres. Entre nous, Walter.
C'est l'impression.
Entre nous, Walter, est-ce que toutes les femmes qu'on épouse, excusez-moi les termes, sont des femmes vierges? Entre nous, soyez.
Je vous laisse répondre. C'est moi qui pose les questions.
Voilà. Il ne faut pas que vous, les hommes, aidez-nous aussi. Vous, les hommes, quand vous considérez que cette femme a été violée par deux ou trois personnes, c'est dit que non, c'est une femme qui est... Non, ça arrive.
Il faut lui rendre sa dignité.
Il faut lui rendre sa dignité. Il faut la réhabilitation. Si nous allons en justice contre la femme aujourd'hui accepte de se dévoiler, brise le silence aujourd'hui. Dites-vous que le nombre quand même des violences sexuelles pourra quand même être réduit.
Là, je vais m'adresser aux auditeurs. Êtes-vous prêt à briser le mur du silence sur cette question des violences sexuelles? Vous qui êtes victime, vous qui vivez autour d'une personne qui en a été victime, êtes-vous prêt à l'accepter? 081-890-6890, appelez-nous à ce numéro pour réagir, participer au magazine, réagir par rapport au premier sujet que nous vous proposons, celui relatif aux violences sexuelles faites à la femme. Nous allons finir cet entretien avec vous, Madame Régine Nzaté, je rappelle aux auditeurs, ceux qui viennent de se joindre à nous, que vous êtes en charge du département femmes et enfants au niveau de l'ONG Observatoire Congolais des Droits Humains, une ONG qui est opérationnelle à Kinshasa et ailleurs. Deux grands programmes, lutte contre la torture et aussi cet aspect des violences sexuelles faites à la femme de façon particulière. Alors, récapitulons. Voilà. Il y a un problème qu'il y a très peu de femmes qui ont le courage de briser le mur du silence autour des violences dont elles sont victimes, sexuelles particulièrement. Peut-être que si on en parle sur la voie publique, ça va encore les repousser davantage. Où sont vos adresses? Où sont vos centres? Comme ça, elles peuvent venir vous voir un peu plus intimement et garantir leur anonymat et le secret autour de ça.
Déjà, je vous informe, monsieur Walter.
Oui.
Bon, quelques femmes qui viennent nous saisir déjà, on garde toujours l'anonymat, on travaille dans toute discrétion.
Mm-hmm.
Si la femme accepte, comme la fille là qui était en prison, elle a accepté, c'est pourquoi nous nous sommes dit que nous sommes portés garant pour la défendre devant les instances judiciaires.
Mm-hmm.
Mais parce que les femmes qui ne veulent pas dénoncer, ou et qui veulent dénoncer, mais elles ont honte, je m'en vais tout de suite passer notre adresse. Nous sommes à l'immeuble Boutour, deuxième niveau local 4.
Mm-hmm. Et alors, les femmes arrivent, elles franchissent le premier cap, c'est celui ne fût-ce que de venir dénoncer. Mais elles ne veulent pas aller au-delà.
Au-delà. Au niveau dénoncer, de obtenir les soins,
ouais.
Ça se limite là.
Et ça se limite là.
Les soins médicaux, ça se limite
mais
là.
Mais il n'y a pas réparation judiciaire.
Réparation judiciaire, voilà.
Il n'y a pas réparation sociale. Il n'y a pas réhabilitation de la dignité.
Elles ne veulent pas. Les femmes se disent que non. Seulement aussi, là je me rappelle, on a un cas d'une fille de 13 ans qui a été violée par un membre de sa famille. Et cette fille-là, sa maman est venue nous voir, on en a parlé, on a traité, on a donné des soins. Mais quand il fallait entraîner l'auteur en justice, la maman a refusé. Mais seulement parce qu'on travaille avec...
Pourquoi elle a refusé?
Elle a refusé parce qu'elle s'est dit que non. Ça, c'est d'abord l'honneur de sa fille, de deux, et puis ça risque, parce que c'est le beau-frère qui prend en charge toute la famille. Alors si on arrive jusqu'en justice là,
les
mariages, hein, oui, les frères, ce sont les beaux-frères de la fille, quoi. Elle s'est dit que non, le problème va se poser parce qu'elle risque de répudier sa fille. Voilà.
Il y avait cette crainte-là de répudiation,
une
menace de répudiation. Est-ce que la menace de répudiation est suffisante pour taire des actes comme ça, pour ne pas poursuivre les auteurs jusqu'en justice? C'est à vous que je pose la question, à vous, activiste des droits de l'homme.
Moi, en tant qu'activiste des droits de l'homme, je me dis que nous sommes en train de lutter contre l'impunité. Il faut que ces gens-là puissent avoir une punition à leur degré. Parce que les familles ou les victimes ne veulent pas dénoncer. Ils dénoncent parfois et se limitent quelque part.
Michel,
c'est inachevé. Mais ça ne nous aide pas. Les victimes ne nous aident pas.
Lorsqu'on fait la cuisine, on cuit jusqu'au bout pour bien manger.
Pour bien manger.
Il faut aller jusqu'au bout, franchir tout le cap.
Et puis, on s'est dit, souvent ces gens-là ne sont pas à leur première tentative. C'est ça que je répète.
Et ça conforte les violeurs dans leurs actes parce qu'il n'y a pas de punition.
J'étais en Bandara, c'était la même chose. On s'est dit non, on a réparé son fait de famille. Bon, on s'est mis d'accord, on a donné une chèvre et puis c'est fini. Non, mais il ne faut pas aller loin. On s'est dit non, nous ne pouvons pas nous limiter seulement à donner des soins médicaux. Non.
Vous rappelez peut-être un numéro de téléphone pour joindre l'OCDH pour les auditeurs. On peut donner votre numéro.
Oui.
Alors, on peut joindre Madame Régine Zaté au 081 50 20 964.
Voilà,
c'est le numéro de Madame Régine Zaté. Je rappelle qu'elle est en charge du département femmes et enfants au niveau de l'ONG Observatoire Congolais des Droits Humains. Donc, pour plus de discrétion, pour plus d'intimité, si vous voulez, par rapport à ces questions, appelez à ces numéros, elle va vous orienter.
Vraiment, je vais
les conseils par rapport à la suite.
Et surtout là, je préfère maintenant parler à Lingala parce qu'il y a des mamans qui sont.
Oui, dites-leur.
Bah, maman, bah, jeune fille, problème est allé pour la violence sexuelle. Na au sein de ma famille, na bien les oreilles, bana. Mais seulement, bolingi est débissoté. Bolingi te va punir, bah toi, na bas va punition. C'est pourquoi, bah acte de violence, c'est ça au continu. Loi est allé, même si violence sexuelle en général, est allé na nous réprimer. Na doit na biso, mais viol, na attentat à la pudeur, et qui au pèse à moi solution. Mais seulement, bah toi, courage à quoi, t'es allé na OCDH, na dans le département femmes et enfants, deuxième niveau local 4, si vous avez des problèmes de viol, on va traiter ça, t'es traité en cas de discrétion, nion surtout. Pour vos solutions, elle est comme d'un, bah vous avez réhabilité, et puis ma combat violence sexuelle ici, là, et comme il vraiment même na est, comme la Kishasa, c'est comme vraiment arme mon corps pour dénigrer la femme maintenant.
Voilà, disons que c'est un immeuble Boutour, je rappelle votre numéro de téléphone, c'est 081 50 20 964. Madame Régine Zaté, merci beaucoup d'être venue.
Merci.
Dire votre combat pour réhabiliter la femme victime de violences sexuelles. Merci, au revoir.
Merci.
Bonne année, hein. On est encore dans le mois de.
Maintenant, là, je pars, je suis en dé, j'ai perdu mon cousin proche.
Donc, on
donc je ne faisais pas vous fausser compagnie, c'est pourquoi.
Merci beaucoup d'être venu.
Okay.
Et toutes les condoléances à la famille.
Comme on doit.
Merci beaucoup. Merci. Ok, nous poursuivons. Le deuxième sujet d'aujourd'hui, c'est autour du comportement à adopter lorsqu'il y a des manifestations publiques. Vous le savez, c'est encore frais dans les mémoires. Les deux dernières semaines ont été marquées par des manifestations populaires. Le 10 janvier dernier, par exemple, la population manifestait ce jour-là, réclamait notamment que le calendrier électoral soit respecté, qu'il n'y ait pas prolongation. C'est parti de là. Alors, c'est constat que lorsqu'il y a des manifestations de ce genre, les manifestations dans les rues marchent et en face d'eux, il y a des éléments de la police. De part et d'autre des rues, évidemment, il y a des gens qui vivent, qui habitent. Comment faire en sorte que vous ne soyez pas pris par les débordements éventuels lorsqu'il y a des échauffourées entre les manifestants et les forces anti-émeutes de la police? Vous le savez, le 10 janvier dernier, il y a eu des conséquences, notamment, il y a eu des morts. 4 officiellement, un peu plus selon d'autres sources, notamment des ONG ou d'autres formations statutairement constituées. Mais selon de nombreux reportages, notamment effectués l'année dernière par Radio Okapi, mais aussi grâce à des informations constamment véhiculées par de nombreux médias, on se rend compte que très souvent, les interventions de la police congolaise se terminent sur de nombreuses bavures. Des populations, des personnes sont souvent blessées ou tuées par des éléments de la police qui sont envoyés en intervention pour contenir les manifestants. Comment et pourquoi cela arrive-t-il? Comment remédier à ces situations? Comment faire en sorte qu'il y ait moins de bavures et que les manifestants puissent manifester correctement et que la police ne puisse pas en arriver à ce point-là? On va en parler tout à l'heure avec des invités probables qui viendront en studio, mais pour faire un premier tour d'horizon, on le fait avec Donna Madimba. Donna, bonjour.
Bonjour Walter.
Alors voilà, ça arrive très souvent et très fréquemment. À chaque manifestant, il ne manque pas qu'il y ait des blessés, ça c'est évident, qu'il y ait des morts après et des personnes arrêtées. Bon, alors, est-ce que la police est vraiment à blâmer lorsqu'on constate des bavures ou malheureusement lorsqu'il y a mort d'homme?
La population à travers le pays, hein, particulièrement nous qui avons pu enquêter ici à Kinshasa, la population le croit, la population le dit. Elle dit que la police est à blâmer. Mais quand on regarde aussi de près les raisons qui généralement sont à la base de ces bavures, beaucoup laissent penser que la police a presque toujours moyen d'éviter les dégâts. Mais sur terrain, on constate plutôt le contraire. On constate qu'elle ne fait pas justement tout ce qu'elle peut pour éviter ces bavures.
Il y a donc cette tendance à dire que la police doit porter le chapeau de toutes les bavures. Quelles sont les causes qui justifient, qui peuvent expliquer que très souvent et toujours il y a des bavures?
Elles sont nombreuses, hein, les causes. Mais les plus flagrantes, de toute manière, sont d'ordre psychologique et logistique. Par cause logistique, nous voyons le matériel utilisé par la police, hein, lors de ses interventions sur terrain, outre les accessoires classiques reconnus à la police, à savoir les gourdins, les grenades lacrymogènes et les boucliers. La police congolaise, surtout depuis l'avènement de l'AFDL, utilise essentiellement des kalachnikovs et d'autres armes à feu comme matériel de dissuasion pour imposer l'ordre, chose qui visiblement finit par augmenter les risques de violence et les blessures, hein, lors des confrontations police-population. Les causes d'ordre psychologique sont pour beaucoup liées aux causes logistiques.
Une conséquence, si vous voulez.
Ouais, une personne fâchée ou un groupe en manifestation, par exemple, a toujours tendance à se sentir plus en danger qu'en sécurité à la vue des armes à feu. Ce qui augmente, comme très souvent, les risques d'affrontements qui sont parfois très meurtriers.
Et un policier face à une dizaine de manifestants croit qu'avec l'arme, il peut dissuader en faisant une sommation, et ainsi de suite, parfois tirer dans l'état pour se sauver. On se rappelle, par exemple, pendant les manifestations des années 90, lorsque c'était la conférence nationale souveraine, des manifestants, parmi eux, il y en avait qui connaissaient déjà le nombre de munitions dans un chargeur et qui commençaient à compter et qui savaient qu'à un moment donné, il n'y en avait plus et puis sauter sur l'agent de l'ordre.
Ouais, tenez comme anecdote, par exemple, dans les quelques exemples que je peux citer particulièrement, parce que j'ai été couvrir l'année dernière un certain nombre de reportages dans lesquels la police était impliquée. Il y a eu, par exemple, une situation du côté de l'Emba Foire, du côté du campus, là-bas, Livoulou. Je suis arrivé sur un terrain où la police, un groupe de policiers était envoyé sur terrain pour essayer de faire respecter, c'est-à-dire une dette que quelqu'un avait contractée et qu'elle devait payer. Alors la police, on ne sait pas pourquoi, la police était mêlée dans cette affaire, mais toujours est-il que la police était arrivée sur place. Alors, cherchant à traîner la personne incriminée par force, la personne a résisté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, un policier a tiré dans le ventre de cette personne. Alors vous voyez,
pour aller régler une histoire de dette.
Une histoire de dette, et les gens nous diront que la personne avait résisté, elle ne voulait pas aller à la police pour répondre. Mais comment est-ce qu'on allait arriver jusqu'à ce qu'un policier dégaine son arme et tire des coups de feu en plein ventre d'un citoyen, même s'il montrait quelque résistance? Allez donc y comprendre quelque chose.
Pour une affaire de dette.
Une affaire de dette. Et une autre affaire, c'était plutôt toujours du côté de Matete, où la police était allée. En fait, c'était là, c'est vraiment une véritable bavure, hein. C'est-à-dire des jeunes gens qu'on appelle généralement enfants de la rue ou connus sous le nom de Chez Gay ici, un nom qu'on ne souhaiterait pas surtout utiliser ici sur Radio Capi. Ces jeunes gens qui tardent souvent autour des marchés la nuit, jouant des cartes et tout, et cherchant à se faire de l'argent aussi tôt que possible, hein, étaient en train de jouer leurs cartes. Qu'est-ce qui s'est passé? Un policier est passé par là, il a sommé ces jeunes de quitter le coin. Et voilà, il s'est emparé de leur bien, semble-t-il, était là. Et qu'est-ce qui s'est encore passé? Un coup de feu est parti et la jambe d'un des garçons est partie en déchet. Voilà. Donc,
Il y a des exemples comme ça. C'est pas pour vilipender la police. On constate des faits réels, vérifiables. Et des réactions, des suggestions, nous avons essayé depuis 2-3 jours de joindre les autorités au niveau de la police pour qu'ils viennent participer donc à ce magazine pour donner des réponses, notamment à toutes ces questions que les uns et les autres se posent sur les moyens d'intervention de la police, la façon d'intervenir pour éviter des bavures, si c'est le souhait de tout le monde. Et on se pose la question, Donna, est-ce qu'il y a moyen d'éviter les bavures?
Ben, tout pousse à croire que oui, qu'il y a effectivement des moyens, qu'il y a en tout cas des pistes pour pouvoir résoudre ce problème des bavures. Ces bavures peuvent être, si pas complètement arrêtées, mais au moins diminuées. Abordé sur cette question, la population de Kinshasa a répondu et propose des solutions, des pistes de solutions pour mettre fin aux bavures policières constatées actuellement. On écoute.
Tout le monde regarde la télévision, tant ma action, ça regarde la porte ou la manifestation. Ma bête, ma sœur, c'est Nicolas, puis ma sœur, ma ma balle blanche est allée. On remet ta balle, il faut mettre ta balle blanche.
Ce que nous avons dit, la police, d'abord, nous avons fait la causerie morale avant la police. Nous avons fait la bima, nous avons fait la toi, et le commandant et la compagnie. Nous avons fait le commandant et le bataillon. Nous avons fait la toi, nous avons fait la toi, nous avons fait le terrain, nous avons fait la toi, nous avons fait la toi. Le commandant bataillon, nous avons contrôlé le bataillon, nous avons fait le côté boy, c'est le père boy. Kuna sio na yeki ke bumi ba tu boi na boi yoni muto kanga mna plaswa na akuyeba ko dirige parce que chaque bataillon est en compagnie nango, chaque compagnie est en na ni section nango, donc chaque section est en peloton nango, akuyeba nini ya ko dirige ba elemana yo.
Et bon, matériel, il y a Moussala. Yo, au conseil, on va utiliser matériel ni. Mindouki, Ngondo, balle blanche, balle en cartouche, en caoutchouc, balle ni.
Bakotambo, Mandouki, Ezali, balle blanche, Ezali, Nakati, Ezali, Ponako, Ponako, Bangi, Sabango. Et Bakobeta, on va vous portanter, Bakobeta, on a l'icolo. Bakozalana, matraque, Ngondo, naye, Ponako, empêcher, Batou, donc, Batouosala, marche. Tambola, zone sur mon anzela, yo zo dirige bango, ataba fingi même yo kutu police aux awana, ou ça yoko mokote, ou kangamato yo yo sali tozo kayamote, mais yo rôle na yo, ezali kozwa moral. Police azali camarade ya population, azali neme population te?
Voilà des points de vue, des suggestions. Je dois rappeler que pendant les manifestations du 10 janvier, sur les images qui passer en direct sur certaines chaînes de télévision qui couvrent Kinshasa, j'ai observé personnellement un groupe de policiers qui avançait face à la foule et un des policiers, il a paniqué et il a tiré. Et j'ai vu deux de ses chefs, qui avaient au moins un grade de capitaine, les trois barre jaune sur passant noir qui sont venus le maîtriser, le réprimander pour dire « Pourquoi tu as tiré ?» Qui t'a donné l'ordre de tirer, ouais. Ainsi de suite. Ouais. Et les gars devaient être sortis du lot des policiers qui étaient face aux manifestants. Ouais. On l'a remis dans une Jeep et on l'a sorti du lot. Ouais. Donc, ça prouvait que tout le corps qui est face aux manifestants n'a pas le même esprit, les mêmes consignes face à ces populations. On doit rappeler que nous avons essayé encore il n'y a pas longtemps de joindre les responsables au niveau de la police, les téléphones ne passent plus, mais on va peut-être encore tenter de vérifier ça tout de suite. En attendant, vous pouvez intervenir, réagir en appelant au 081 890 68 90. Voilà, aux réflexions, tous les efforts que Nicole n'arrête pas de déployer pour essayer de joindre les autorités de la police n'aboutissent pas apparemment. Il est encore au téléphone, je la vois à travers la baie vitrée. Pauvre Nicole, elle se débat comme une diablesse dans un vénité. C'est une expression, je ne dis pas que c'est. Mais enfin, pour essayer d'avoir les bonnes réponses à vos préoccupations, chers auditeurs, mais Donna Madimba, disons que vous avez rencontrer ces autorités et pendant les échanges briefing, elles vous ont dit quelque chose par rapport à certaines préoccupations des populations.
Oui, bien sûr, on était censé les avoir
en direct.
Oui. Ils nous ont donné leur confirmation. Bon, ok, vous savez que le pays a en ce moment beaucoup d'autres priorités. On a pu.
L'une des priorités, c'est la sécurité des populations, et venir les rassurer aux médias, c'est aussi prioritaire.
Exactement. On aurait souhaité ça pour vous, chers auditeurs. On a eu pu joindre l'inspecteur de police de l'IP, de l'IPKIN, le général Sabiti, et puis l'inspecteur adjoint des PIR, police d'intervention rapide, Safari Kazingulu, avec qui nous sommes entretenus déjà dès vendredi dernier, et qui nous ont donné des éléments que on peut déjà vous donner aussi. Par rapport, par exemple, à
vous avez parlé des contraintes logistiques.
Oui, des contraintes logistiques. Il y a, par exemple, lorsqu'on leur pose la question, pourquoi est-ce que la police utilise, au lieu des
balles blanches,
du matériel classique qu'on voit généralement chez la police à travers le monde, du matériel qui est censé généralement dissuader et pas tuer vraiment. On constate que la réponse est que, on n'a pas pour le moment les moyens suffisants. Et aussi la police qu'on utilise actuellement, ça c'est quelque chose qui a été dit, n'est pas totalement et suffisamment formée à utiliser que le matériel classique qui est moins coûteux. Et généralement, selon ses responsables de police, la police n'a pas le droit d'intervenir avec des balles, on n'a pas le droit de tirer
à balles réelles
à bout portant dans une manifestation quelconque.
Et voilà, je dis aux auditeurs que c'est dommage, mais pardon pour n'avoir pas amené les généraux ici, et les majors, et les officiers. Merci de là.
Merci.
Radio Okapi, le rendez-vous de l'information.
C'est Jody qui me dit qu'on doit continuer. Oui, c'est vrai, on doit continuer. Faisons allusion à beaucoup d'autres auditeurs. Prince Kambali nous a écrit tout à l'heure de Australie. Mon frère, j'espère que vous êtes toujours en Australie. Il a réagi en nous donnant des chiffres très précis par rapport aux violences faites à la femme. Je vais vous en parler tout à l'heure. J'ai dit au revoir à Donna et on se retrouve très prochainement.
Merci beaucoup, Walter.
Et voilà, on change de ville. Après Kinshasa, nous nous rendons à présent à Kindu pour aller suivre cette situation qui s'y passe. En effet, la campagne de démobilisation des enfants associés au groupe armé a commencé. Cette campagne est menée conjointement par toutes les organisations et agences impliquées dans le processus DDR lié aux enfants. C'est notamment la MONUC, l'UNICEF, le CONADER et l'ONG Care International. La première démobilisation s'est opérée le week-end passé au camp Tchomba, où sont logées certaines troupes venues de l'intérieur de la province pour leur brassage. À cette occasion, des dizaines d'enfants soldats ont été démobilisés. Sadala Chabani a suivi pour nous cette manifestation. Sadala, qui est en direct maintenant depuis Kindu, bonjour.
Bonjour Walter.
Bonne année, ça fait une année qu'on ne s'est pas vu depuis 2005.
Vraiment, alors, merveilleux pour l'occasion de l'année nouvelle.
Voilà, Fadala, rentrons dans le sujet qui nous concerne. Dites-nous dans quelles conditions se sont déroulées ces premières actions de démobilisation des enfants associés aux groupes armés au niveau des Kindu.
Oui, Walter, c'était au cours d'une parade militaire que le général Widimbili Divyoka, commandant de la 7e région militaire, a appelé les enfants de moins de 18 ans à la démobilisation. Cet appel, Walter, a été mal entendu par ses troupes. 200 soldats, enfants et tout âge aussi, adultes, ont demandé leur démobilisation à l'occasion. Mais le général commandant a par la suite bien expliqué que seuls les enfants étaient concernés dans un premier temps.
Voilà, donc on peut se rendre compte qu'il y a eu un malentendu par rapport à la tranche de personnes concernées par cette démobilisation. Sadara Chabani, combien d'enfants soldats ont été démobilisés en définitive?
Oui, Walter, au total, 68 enfants associés au groupe armé ont librement manifesté leur désir de quitter l'armée avec la joie de retrouver leur famille, comme le témoigne un d'entre eux.
Merci, moi je remercie d'abord les bons dieux, puisque moi je quitte l'armée aujourd'hui. Bon, je vais aller au village pour aller continuer avec mes études. Après, je vais travailler comme les autres font du travail. Je suis content, vraiment content.
Tu ne regrettes rien?
Aucun regret.
Ngana sepeli to na tigi musala soda lingi na kovanda kisivi na sala musala o esengeli ya maboko kusala. Pe na kini na mwana na fami na kosepela mingi sio na mwana na fami jiza yango tozo mwana na te. Na sepeli mingi bitumbo nyoso na sala kyango na kufite me azana shida na mwana na bapale na ba fami na ngai. Na kotanga me apre na kusamusa maboko me na kotanga liboso. Na furahi sana na zaidi. Kwa sababu sione faida mukiarme omwa nikale mukiraia nitachuluza ndo kazi yangu nilikuwa nao zamani.
Sadala Chabani, nous avons appris qu'il y a parmi les enfants ceux qui ont moins de 17 ans qui ont refusé de se faire démobiliser. Pourquoi? Parce que vous les avez rencontrés?
Oui, Walter, c'est parmi ces enfants soldats, il y a ceux qui ont refusé de quitter l'armée, puisque pour eux, ils n'ont rien à faire en dehors de l'armée. Et malgré l'insistance du général et commandant, ces enfants sont restés dans les troupes. Vous suivez ici un qui refuse là.
Yo boy ko kolonga msa soda.
Na boy.
Porani.
Na boy.
Yo boy porani.
Na boy kaka.
Na boy kaka.
Nazana mama te, nazana papa te. Na boy. Gana boy na sana na boy na kiraia na boy. Gana boy.
Na boy
ka ku desertere ntena kuikana na boy. Na boy
simasema wewe ndio mwingine aoneze mwaka wa soda
te na boy na kukaa unani kaza kisoda kaka.
Mais voilà des réactions en non catégorique. Naboy signifie je refuse. C'est en lingala. Sadala Chabani, par rapport notamment à ces refus, quelle a été la réaction des organisations et agences qui sont impliquées dans ce processus de démobilisation des enfants au niveau de Kindu et de la province du Maniema?
Oui, face à cette résistance de certains enfants à quitter l'armée, Monsieur Inosa Bugandwa, le représentant de l'UNICEF à Kindu, pense d'abord à l'innocence de ses enfants. Et il continue à demander aux responsables des troupes la démobilisation sans délai de tous ses enfants et insiste que l'enfant n'a pas sa place au sein de l'armée. On l'écoute.
Je dois dire que je suis d'abord très heureux de l'opération parce qu'au cours de cette opération, on a pu démobiliser à peu près 68 enfants. Je suis content que tous les partenaires impliqués dans les DDR se soient vraiment présentés sur place et participer à cette opération. Ça, c'est déjà une bonne chose, un signe de collaboration et de bonne coordination des activités. Je voudrais dire qu'il est malheureusement dommage qu'il y ait certains enfants qui soient restés dans les camps. C'est dommage parce que les enfants n'ont pas la maturité nécessaire pour décider de rester ou pas dans l'armée. Alors il est bon que les officiers militaires qui y sont restés nous aident à les identifier et à nous les envoyer au CTO de Basoko.
Innocent Bougandois de l'UNICEF, interrogé par notre confrère, Sadala Chabani en l'occurrence. Dites-nous, Sadala, nous avons appris que cette démobilisation qui a été faite au camp Chomba, c'était la première d'une série. Quelle est la suite des séances?
Oui, la suite, ce sera le mardi 18 janvier au Kaluama, un important centre militaire de la province situé à 7 km de la ville de Kindu. Et je vous signale aussi, Walter, tous ces enfants qui venaient d'être démobilisés sont hébergés au centre géré par l'ONG Terre International, une agence de protection de l'enfant. Ils seront gardés pendant une semaine avant d'être réunifiés à leur famille.
Et voilà, Sadala, merci beaucoup. Nous aurons un peu plus de détails tout à l'heure avec Monsieur Dieudonné Chihigiri, chef de projet de l'ONG CARE International, sur cette question, comment s'est organisé au niveau du CTO, comment la réunification familiale est organisée, comment les familles leur répondent, est-ce qu'elles sont prêtes à accueillir ces enfants. Autant de questions qu'on va poser à Dieudonné Chihigiri et d'autres questions que vous, auditeurs, vous pouvez poser. En appelant au 081-890-6890 ou en nous envoyant un mail à action@radiocapi.net. C'est ce qu'a fait Prince Kambalé. Je rappelle qu'il nous a fourni beaucoup d'informations en ce qui concerne des chiffres sur les cas des viols dont on parlera avant la fin de l'émission. Évidemment, notre auditeur Prince Kambalé doit être patient et tranquille. On ne va pas jeter ces informations dans la poubelle. On va les porter à la connaissance de nos auditeurs. Merci de nous les avoir envoyés. On se retrouve dans quelques instants. Au moins 60 enfants démobilisés à partir du camp Chomba. Nous sommes dans le Maniema, Kindu précisément. C'était une première série d'une autre qui va continuer, notamment au camp Luama, pour parler du contexte même et de la suite du programme de démobilisation et réinsertion des enfants associés au groupe armé. Nous avons en ligne depuis Kindu Monsieur Dieudonné Chihigiri. Bonjour. Dieudonné? Monsieur Dieudonné Chihigiri, bonjour. Allô, Dieudonné? Ben voilà, on a du mal, il ne répond pas. Est-ce qu'il est en ligne? Jean-Noël, essayez de reprendre cela. On a des petits problèmes, vous voyez ça, avec Donna, Madimba et toute l'équipe. En attendant, laissez-moi vous faire part du message de Prince Kambalé, qui nous a écrit probablement de l'Australie, parce qu'aux dernières nouvelles, c'est là qu'il s'est trouvé. Et, il réagissait au premier sujet que nous vous avons proposé, parce que 27 femmes, selon les informations qu'ils détiennent, ont été violées à Bukavu, ont contracté le sida, donc les violeurs aussi, et ils continuent la propagation. Quel est le sort de ces 27 femmes innocentes, s'interroge Prince Kambalé. Voilà, l'information qu'il nous livre, c'est que ils sont 1795 les cas de viol dénoncés en 2004 par le centre Olamé de l'archidiocèse de Bukavu. Nous sommes en Sud-Kivu, en République démocratique du Congo. En tout cas, c'est ce qui ressort du rapport présenté par Marie-Noël Tchukuru, responsable des services de l'archidiocèse aux femmes victimes de violences, lors de la rencontre organisée par Corded à l'Aja, aux Pays-Bas. Comme le précise la rédactrice du rapport, les victimes de ces crimes commis à Bukavu et ses environs sont en majorité les jeunes filles et les mères des familles, mais les criminels n'ont pas hésité à abuser des enfants de moins de 10 ans, 10 cas dont la moitié concerne les victimes de moins de 5 ans, et les femmes de plus de 60 ans, 61 cas dont un concerne une femme de 81 ans. 113 violées sont tombées enceintes et ont donné naissance à un enfant conçu lors de ces viols. 74 sont restées avec des séquelles physiques telles qu'elles doivent être longuement suivies médicalement. 27 autres victimes de ces viols ont contracté le VIH-Sida. Voilà l'information que nous a livrée Prince Kambalé, un auditeur très fidèle de Radio Okapi et de Okapi Action en particulier, qui nous écoute en direct sur Internet sur les www.radiookapi.com. Radio-Canada.net, comme tous les autres dans le monde entier.
Okapi. En FM, sur Internet, par satellite. Okapi. Okapi, la radio proche de vous. Okapi.
Il nous est possible, probablement maintenant, de parler avec Monsieur Dieudonné Chiguiri. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Voilà, vous êtes chef de projet de l'ONG Care International. Vous êtes basé à Kindu. Vous êtes partenaire dans ce programme de démobilisation et réinsertion des enfants associés au groupe armé. C'est d'ailleurs votre ONG qui gère le centre de transit et d'orientation. Combien d'enfants avez-vous dans le centre actuellement?
Pour le moment, nous avons 71 enfants, mâles et 9 femmes.
Donc, on peut dire 80 au total.
Oui, à peu près.
Ils ont 9 filles et 71 garçons. Quel est le programme que vous leur donnez, auquel ils sont assujettis, en attendant la réunification avec leur famille?
Bon, les travaux que nous menons visent 3 objectifs essentiels. Le premier, c'est d'abord assurer leur survie en tant qu'hommes, c'est-à-dire l'alimentation, les soins de santé et bon, le logement, bien évidemment. Deuxième objectif, c'est garantir une perspective de développement à ces enfants qui en ont été privés, c'est-à-dire une formation intellectuelle, un petit métier manuel, de manière à leur ouvrir la possibilité d'une intégration dans la communauté par la suite. Le troisième, si pas, est aussi le plus fondamental, c'est-à-dire viser à assurer leur retour en famille et leur réintégration dans leur communauté d'origine.
Mmh. Mais c'est là la question assez préoccupante quand même. Est-ce que vous faites déjà les contacts avec les familles pour les préparer à recevoir ces enfants? Parce que ça pose souvent problème.
Oui, cela pose souvent problème, mais nous avons développé finalement une stratégie. Nous y sommes depuis plus d'une année. Nous avons des communautés et dans chaque communauté, il y a 2 de nos animateurs établis qui ont créé un réseau d'information et de formation. Et quand chaque fois des noms nous arrivent à la base, nous les communiquons à nos animateurs sur le terrain qui immédiatement commencent ce que nous appelons en termes techniques le tracing, c'est-à-dire la recherche des familles, la conscientisation des communautés. Cela est donc en cours pour le moment. Et au moment où je vous parle, il y a déjà un enfant de ceux qui ont été admis qui est parti ce matin avec la collaboration de la Monique en direction de sa famille.
Mais qu'est-ce que vous répondent les familles? Est-ce que toutes les familles qui sont contactées par rapport à ce processus de réinsertion, de réunification familiale, répondent favorablement à l'accueil des enfants qui doivent revenir?
Ce n'est pas toujours le cas et quand c'est le cas, ce n'est pas spontané. Il y a toujours une sensibilisation. Il y a bon des cas où les enfants n'ont rien à se reprocher ni à être reprochés. Ils sont accueillis sans problème. Il y a des cas aussi où soit la famille, soit la communauté redoute de recevoir cet enfant. Et notre travail, c'est d'aller auprès de la communauté, montrer que c'est un enfant, non pas un guerrier, non pas un bandit, non pas, c'est pas un sorcier ou toutes ces blagues-là qu'on invente contre les enfants.
Mmh. Nous avons entendu quelques enfants qui ont dit catégoriquement non par rapport à la démobilisation. C'était Naboï exposant je ne sais pas moi combien, tout le temps Naboï, Naboï. Ça voulait dire forcément que ces enfants ne voulaient pas être démobilisés. Quelle attitude est-ce que vous adoptez vis-à-vis de ces refus?
Bon, quand un enfant ne veut pas être démobilisé, il faut prendre ce mot avec des gants. Ça veut dire qu'il ne veut peut-être pas maintenant. C'est peut-être qu'il n'a pas reçu suffisamment d'informations pour voir que son chemin, c'est dans cette direction-là. Et donc, notre attitude, c'est de rester conciliant, écouter, mais tout en continuant à informer. Aussi bien l'enfant que les chefs militaires qui éventuellement seraient avec lui, de manière à ce que finalement on arrive à un consensus.
Mais À l'opposé de ça, on a remarqué, nous avons entendu, selon les informations à notre possession, que d'autres personnes qui sont âgées de plus de 17 ans voulaient aussi être démobilisées et qu'il a fallu que le général commandant de cette région militaire vienne expliquer que cette démobilisation-là ne concernait que les moins de 17 ans. Quelle est cette catégorie d'autres éléments militaires âgés de plus de 17 ans qui voulaient se faire démobiliser?
Oui, bon, vous savez qu'il y a un temps déjà assez long qu'on parle de brassage et de démobilisation de personnes qui ne le veulent plus rester dans l'armée, de personnes invalides, d'enfants et quoi. Les pauvres militaires dans les camps ne sont pas assez savoir qu'aujourd'hui ce sont seulement les enfants, bien qu'on les leur explique. Il en est qui ont essayé, oui, de passer dans le camp des enfants pour arriver au but qu'ils recherchent et attendent depuis des mois. Je pense, mon point de vue, si il m'est permis de les mettre, c'est que le processus soit accéléré et qu'on arrive à gagner une armée qui soit une armée de militaires convaincus et qu'on n'ont pas forcé à rester parce que leur processus d'émancipation n'est pas entamé.
Mmh. Je suis passé par Kindu au mois d'avril l'année dernière, je suis arrivé le 20 avril, très exactement, c'était un mardi d'ailleurs. Deux jours après, je suis allé faire un reportage dans un centre de transit où il y avait beaucoup d'enfants qui devaient être démobilisés, mais il y avait une espèce d'énervement parce que d'abord, ils se disaient qu'ils n'étaient pas bien nourris dans ce centre de transit et d'orientation, qu'ils n'avaient pas de précisions sur leur lieu de destination et qu'ils n'avaient même pas d'informations sur le kit qu'on devait leur donner pour faciliter leur réinsertion dans la communauté. Qu'est-ce que vous avez de particulier aujourd'hui dans ce nouveau programme qui puisse vous mettre à l'abri de ces genres d'énervement et pour faciliter une réussite de cette réinsertion?
Bon, il y a une erreur de fond qui est imputable à une désinformation ou un manque d'information. Les enfants arrivant chez CARE ne sont pas au service. Nous sommes un service humanitaire qui leur apportons l'appui nécessaire pour qu'ils retrouvent leur famille, mais qui ne vient pas payer les années de service militaire qu'ils auraient éventuellement passées. Et pour dire vrai, ce n'est pas un kit aussi volumineux soit-il qui fera d'un enfant demain un adulte, mais c'est la formation, c'est l'ambiance globale qu'on organise autour de lui qui progressivement, comme vous et moi, fait petit à petit de lui un homme ou une femme accomplie. Chez CARE, nous avons donc la stratégie, comme je vous l'ai dit, de garantir que l'enfant garde sa vie, c'est-à-dire protection de la vie, qu'on lui ouvre des voies d'émancipation en termes d'alphabétisation, remise à niveau, réinsertion scolaire, formation socio-professionnelle, appui à la réalisation de micro-projets. Mais de donner là des kits tout faits, c'est de la magie, et d'une magie, on ne peut attendre que des réponses magiques, ce qui n'est pas la philosophie des CARE internationales.
Vous avez dit tout à l'heure, appui à la réalisation des micro-projets. C'est quel type de micro-projet que vous appuyez en faveur de ces enfants?
Il en est de tout ordre selon les attentes et les possibilités des milieux dans lesquels ils sont réintégrés. Il y a des enfants qui sont aujourd'hui en train de faire de la menuiserie et qui s'en tirent. Il en est qui sont en train de faire du petit commerce, qui de pain, qui de viande grillée, qui de même élevage de cobayes et quoi. C'est donc d'après la spécificité des milieux où ils sont, on développe des stratégies différents d'un lieu à l'autre. À Pounia, nous avons une équipe, par exemple, qui est devenue de très bons briquetiers, qui vendent aujourd'hui des briques à des communautés en train de construire des écoles. Ça, c'est un exemple. Ailleurs, c'est des tuiles. À face de moi, ici, c'est des ports. Donc, ça dépend d'un milieu à l'autre.
Mmh. Et votre projet, c'est ma dernière question, concerne combien d'enfants?
Pour le moment, si je cumule les chiffres, nous avons atteint les 1600 gamins et je pense qu'on pourra arriver à 2000 passés d'ici la fin de l'année.
Merci beaucoup, Monsieur Dieudonné Chiguiri. Je rappelle que vous êtes chef du projet de l'ONG Care International. Actuellement, vous êtes impliqué dans ce programme de démobilisation et réinsertion des enfants associés aux groupes armés. Vous en avez chiffré cumulé à 1600 aujourd'hui. Vous comptez en démobiliser 2000 d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup d'avoir participé à ce magazine. Nous vous souhaitons plein succès dans la réalisation de vos projets.
Merci, monsieur.
Okapi, le souffle du Congo. Okapi.
Lutte contre le sida, on va en parler encore tout à l'heure, dans quelques instants, avec notre confrère Basile Bakumbane depuis Mbujimayi au Kasaï oriental. C'est une stratégie particulière que développe une ONG qui intervient sur place, sur terrain. C'est lié à cette autre question, le premier sujet que nous avons proposé par rapport aux violences faites à la femme. Il y a certaines attitudes qu'il faut développer. C'est notamment le fait, d'abord, de se présenter le plus rapidement possible, en tout cas avant 3 jours, au poste de santé le plus proche de chez vous pour faire part de cette situation au personnel soignant. Deuxièmement, il faut vous adresser aux ONG de défense des droits de l'homme pour des conseils, notamment une prise en charge psychologique, parce qu'une femme qui a été sexuellement violentée perd une très grande partie de sa dignité en tant que femme, et il faut une assistance particulière pour l'aider à s'en sortir. Et donc, il faut aller vers les ONG qui reçoivent des financements pour ce type de travail, et donc qui doivent vous assister et vous aider à vous en sortir. Troisième volet de l'intervention, c'est il faut être en mesure d'accepter qu'il y ait un dossier judiciaire qui soit ouvert, de telle sorte que les auteurs de ces types d'actions puissent être sanctionnés, de sorte que tout s'arrête. Parce que mettez-vous à la place d'une personne qui a été victime d'une violence sexuelle, des viols parfois, et qui voit le violeur circuler librement dans les rues. Cette femme, cette personne perd vraiment sa dignité. Et donc, avec tous les risques d'être exposé aux maladies sexuellement transmissibles, d'être exposé à avoir des grossesses indésirables, tout cela pose autant de problèmes pour la femme qui perd sa vie. Et l'autre chose, ça c'est un appel que nous recevons, des appels si vous voulez, que nous recevons régulièrement de la part de certaines personnes qui témoignent sur notre radio, mais qui demandent l'anonymat, et nous leur accordons cet anonymat. Mais ce qu'elles font, ce qu'elles nous disent ces personnes, c'est que la communauté puisse accepter, les accepter dans ces conditions-là. Femmes victimes de violences sexuelles, oui, mais femmes avant tout, aux femmes tout d'abord. C'est le message fort que et ces femmes nous donnent, que ces victimes nous proposent. Et à ce moment-là, ce qui se passe après, c'est qu'il faut franchir le cap, aller au-delà de cet effort pour faire punir les auteurs. Parce que tant que les auteurs ne seront pas punis, eh bien, ils continueront à pécher en nos troubles, comme on dit. Aidez-nous à vous aider, c'est l'autre message des ONG de défense des droits de l'homme qui constate malheureusement que très peu des victimes des violences sexuelles ont du mal à briser le mur du silence et à se faire ainsi aider. Donc il y a un effort à faire de part et d'autre, c'est le message clé. Nous allons rentrer dans le clair du sujet qu'on doit parler du Kasaï oriental dans quelques instants parce que nous avons un invité en direct.
Okapi.
Okapi, Mbujimayi sur 93.8 FM.
La lutte contre le sida nécessite plusieurs stratégies et chaque milieu se trouve dans ce contexte spécifique. En Bujumaï, par exemple, au Kassai oriental, une ONG nommée PAFSID, consciente de l'état de vulnérabilité, adopte ses propres stratégies qu'elle appelle programme d'éveil pour sensibiliser dans les églises et écoles de la place. À la différence des autres sensibilisateurs, cette ONG met un système de tests d'évaluation avant de passer à d'autres modules. L'heure est à la première évaluation et là, nous allons nous entretenir avec Monsieur Simon Kabamba, chargé des programmes au sein de cette ONG. Simon Kabamba, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, votre ONG a choisi une stratégie spécifique par rapport à la sensibilisation contre le VIH et SIDA et les maladies et infections sexuellement transmissibles. Vous avez un programme qui s'appelle « Programme d'éveil pour sensibiliser dans les églises et écoles de la place ». D'abord, ma première question, quel est le message que vous véhiculez à travers vos sensibilisations ?
D'abord, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour avoir pensé à notre organisation. Les messages, comme vous le savez, il n'est pas nouveau. C'est le même message qui est véhiculé par les autres associations. Le sida décime toutes les populations, de toutes les races, de toutes les communautés à travers le monde aujourd'hui. Et la communauté internationale est appelée à réunir toutes les énergies pour combattre ce mal qui est en train d'anéantir, d'annihiler tous les efforts de développement à travers le monde. Donc nous disons que le sida continue à faire rage et que tous nous avons l'obligation de les combattre par tous les moyens. Voilà le message pour commencer.
Si vous pouvez peut-être vous placer d'abord stand-by, ne pas trop bouger et éviter les endroits où il y a trop de bruit qui arrive de la rue jusqu'à votre téléphone parce qu'on le ressent très fort ici au niveau de l'antenne, au niveau du studio. Voilà, merci de le faire. Et alors, la question, on constate que vous, parmi les cibles, c'est les églises et les écoles. Commençons par les églises. C'est très difficile de sensibiliser sur le sida dans les églises, surtout lorsque l'on considère les trois volets, à savoir fidélité. Alors, ça, c'est très facile à passer dans les églises.
Oui.
Abstinence aussi, c'est très facile à faire passer comme message dans les églises. Mais le message qui n'est pas facile à dispenser dans les églises, c'est le préservatif, l'utilisation du préservatif. Comment vous y prenez-vous pour sensibiliser au niveau des églises par rapport à l'utilisation du préservatif comme un des trois moyens de la prévention contre le sida et les infections sexuellement transmissibles?
Merci beaucoup, cher ami. Vous l'avez si bien dit que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Il y a quelques années, le message des préservatifs ne pouvait pas passer dans les églises. Mais aujourd'hui, avec la réalité, aujourd'hui avec les taux de prévalence du VIH et SIDA qui ne fait qu'augmenter au Congo démocratique, les églises ont commencé à comprendre qu'il était temps de véhiculer un message réaliste plutôt que rester dans l'appel à la fidélité, l'appel à l'abstinence qui, durant des dizaines d'années, n'a pas suffisamment produit des fruits escomptés. Donc aujourd'hui, c'est vous dire que les églises de réveil qui essentiellement étaient opposées à cette méthode ont commencé à comprendre que tout le monde n'est pas chrétien au même titre. Dans une même église, vous avez des chrétiens qui viennent de se convertir, qui sont encore chancelants, qui ne comprennent pas encore les messages d'abstinence, et il faut leur donner la chance de survivre. Donc, je crois que c'est un message qui est en train de passer. Il y a peut-être l'église catholique qui, pour certaines raisons, hésite encore, mais dans la plupart d'églises et de réveil, le message est en train de passer.
La réalité, c'est qu'on a l'impression que lorsque vous, sensibilisateurs de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH et SIDA, lorsque vous dites qu'il faut utiliser le préservatif, certaines personnes, membres des églises, croient que vous encouragez les gens à la débauche.
Oui, c'est effectivement ça, monsieur le journaliste, les dilemmes qu'on a dans cette élite. Nous disons que tout le monde dans la société ne peut pas comprendre les messages de la lutte contre le sida de la même manière et le même jour. Et ce n'est pas pour autant que nous devons sacrifier les mal informés ou les sous-informés, ou ceux qui ne peuvent pas tout simplement s'abstenir. Donc, nous voulons donner les mêmes chances de survie à tout le monde en disant, dans l'Église, ceux qui n'ont pas encore compris le message de fidélité, c'est pas pour autant qu'on doit les sacrifier. On doit leur donner la possibilité, comme on dit, le troisième bateau pour vivre sans virus jusqu'au jour où ils comprendront que la véritable vie, c'est l'abstinence ou la fidélité. Donc vous comprenez que dans la société, dans l'Église et même dans toutes les autres couches, tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension du problème et nous devons y aller avec tact, avec méthode, pour donner la chance de survivre.
Mais à vous entendre, quand même, la conception commence à évoluer vers une compréhension, une prise à conscience qu'il faut passer ce message même au niveau des églises.
Oui, aujourd'hui nous sommes passés dans plusieurs églises, nous avons demandé l'autorisation de parler aux jeunes, les pasteurs n'y ont pas vu d'inconvénient, ils ont arrangé leur calendrier, nous avons amené notre matériel audiovisuel, nous avons sensibilisé, et les jeunes ont posé des questions, nous avons même exhibé certains préservatifs masculins et féminins, tout en précisant que nous ne venions pas demander, on n'était pas en train de pousser les gens à utiliser les préservatifs, mais que si quelqu'un se surprenait dans des circonstances où il était absolument poussé par le désir de faire l'amour, qu'il exige absolument un préservatif au lieu d'y aller comme ça et le regretter par la suite. Parce que nous savons que dans ce domaine-là, l'hypocrisie fait du chemin. Les gens vont vous dire qu'ils ne font pas ça, qu'ils sont chrétiens, alors qu'en réalité, nous savons ce qui se passe.
C'est une question de conscience personnelle. Dites-nous, monsieur Simon Kabamba, quelle a été la réponse, si vous voulez, enfin, les réactions de ces jeunes chrétiens à qui vous avez donné le message de sensibilisation?
Oui, d'abord, lorsque nous arrivons, nous mettons les différentes cassettes que nous avons, les jeunes sont terrifiés par les images qu'ils voient et les conséquences directes et indirectes des infections et particulièrement les VIH-SIDA, ils sont terrifiés, ils arrivent à comprendre que le mal est véritablement réel et que nous devons le combattre. Donc ils sont révoltés à chaque fois que nous avons une séance d'information avec eux, ils posent beaucoup, beaucoup de questions. Nous essayons de répondre au mieux de notre connaissance à toutes ces questions. Et avant de commencer la prochaine séance, nous passons un test qui arrive à démontrer quel niveau ils ont atteint dans la compréhension de la chose et c'est ce qui nous permet d'échanger des modules et d'avancer comme ça.
Mmh. Ah, venons-en alors à l'autre cible, c'est-à-dire les écoles au niveau de Mbujimayi. Bon, la sensibilisation se passe de quelle façon? Là, il n'y a pas beaucoup de problèmes, il y a, je suppose, des multitudes de questions. Est-ce que vous avez l'impression que les élèves, les écoliers ont ne serait-ce que des formations élémentaires sur ce que c'est le sida, sur les modes de prévention?
Bon, au début, nous avions la même impression en nous disant que les élèves avaient l'information, mais lorsque nous nous sommes mis à creuser la chose, nous nous sommes rendus compte que même dans beaucoup d'écoles, le sida c'était encore un mystère. Beaucoup d'enseignants, pour des raisons qui leur étaient propres, ne voulaient pas tellement en parler ou y donner une information, je ne veux pas dire erronée, mais qui n'était pas mise à jour. Ce qui fait que c'est dans les écoles où nous avons eu beaucoup et alors beaucoup de questions, où même nous avons des demandes qui ne font qu'affluer sur notre table, nous demandant de rentrer pour la énième. Vous voyez, parfois, les enseignants se considèrent un tout petit peu comme des parents et n'osent pas entrer dans certaines matières. Mais nous, nous allons, nous projetons les films où il y a des images vraies et aussi nous passons au débat avec un franc-parler parfois qui ne peut pas être toujours du ressort des enseignants.
Mmh. Mais dites-nous, est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux continuer à aller faire des descentes, si vous voulez, dans les écoles, au lieu carrément de vous battre, vous, cette coalition d'ONG qui parlait du sida, obtenir, si vous voulez, une espèce de réaménagement du programme scolaire pour que, par rapport aux cours d'hygiène, d'éducation à la vie, par rapport aux cours de biologie, ça dépend de tel ou tel autre niveau, d'insérer en module sida au niveau de chaque niveau scolaire. Vous ne pensez pas que ça ne serait pas plus facile et ça évoluerait vite?
Tout à fait, vous avez raison. D'un bout à l'autre sur ce point-là, c'est une très très bonne suggestion. Nous avons des moyens qui sont très limités par rapport au nombre d'écoles, par rapport je vous informe d'abord que nos deux cibles principales, ce sont les femmes en situation difficile, les filles mères, et celles appelées communément les prostituées, que nous appelons professionnelles de sexe. Et alors, les élèves constituent en quelque sorte la cible secondaire, mais nous avons des moyens limités qui ne peuvent pas nous permettre d'aller dans toutes les écoles. Si au niveau de l'inspection, on peut prendre des mesures d'insérer les modules sur les sida dans les cours d'éducation à la vie, ça ferait une très très bonne chose, et à mon avis, je pense que cela apporterait une véritable révolution dans la lutte contre les sida.
Mmh. Mais voilà, et par rapport aux filles mères, principalement, est-ce qu'elles ont été mères de par leur propre volonté, ou c'est à la suite de quelles circonstances? Violences sexuelles, viols, ou par leur propre consentement?
Oui, vous connaissez les conditions de vie des Congolais. Aujourd'hui, dire par leur consentement, oui et non, à la fois parce que à partir du moment où on ne sait plus faire face à toutes les dépenses de la vie, on ne sait pas avoir de quoi manger, tout de suite on est exposé, et quelqu'un qui viendrait vous proposer autant d'argent, la fille est tentée de prendre. C'est ainsi que c'est par cette voie que beaucoup de filles sont arrivées facilement à la prostitution passive et se sont retrouvées aujourd'hui filles mères ou même professionnelles de sexe. Simplement parce que par la force des choses, comme elles devaient survivre et qu'elles n'avaient pas un emploi rémunérateur, elles se sont laissées emporter.
Mais voilà, Simon Kabamba, je rappelle que vous êtes chargé des programmes, c'est d'une ONG qui évolue à Mbujimayi, au Kassai Oriental, l'ONG s'appelle PAF, SIDA, vous conscientisez, vous sensibilisez contre le VIH-SIDA. Merci d'être intervenu dans ce magazine. Je vous dis merci encore, au revoir et surtout plein de succès dans la réalisation de vos projets.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Ok.
Ok, Pierre Sion, aujourd'hui nous avons proposé un sujet sur les violences faites à la femme. Les ONG voudraient demander aux victimes d'avoir le courage de briser le mur du silence sur les actes dont elles sont victimes. Ça permettrait aux ONG de les aider et de poursuivre l'assistance. Lutte contre le sida, information de l'auditeur Prince Kambalé. En tout cas, 27 femmes violées à Bukavu ont contracté le sida et 1795 cas de viol ont été dénoncés en 2004 dans le Sud Kivu. Lorsqu'il y a des manifestations publiques, la police commet souvent des bavures. Comment éviter ces bavures? Nous n'avons pas pu avoir les réponses des généraux et autres officiers qui dirigent la police congolaise. Au Capi Action, c'est terminé pour aujourd'hui. Toute l'équipe vous remercie d'avoir suivi le magazine et se réjouit de vous retrouver demain, 9h02, heure de Kinshasa. Judy Keshama et Donna Madimba étaient à la régie. Jean-Noël a fait la mise en onde pour la deuxième partie, Siala pour la première. Walter Bairindi au micro, c'était moi. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir.